Première partie, 3.
Le lendemain matin, Nadia retrouve son compagnon sur le pont.
« À quelle distance sommes-nous de Moscou ?»
lui demande-t-elle.
« À 900 verstes. Frère,
dit-elle,
je vais tout te dire. Je m'appelle Nadia Fedor et je suis la fille d'un exilé. Mon père, Vassili Fedor, était médecin à Riga. » Il y a 2 ans, le gouvernement a appris qu'il appartenait à une société secrète étrangère et lui a ordonné de partir pour Irkoutsk. Ma mère est morte il y a 1 mois et j'ai obtenu l'autorisation d'aller vivre avec mon père. Je vais moi aussi à Irkoutsk,
répond Michel Strogoff.
J'ai un poradochna spécial pour la Sibérie et je t'accompagnerai jusque chez ton père. Oh, merci frère,
répond Nadia.
J'avais un permis spécial pour aller à Irkoutsk, mais maintenant, il ne vaut plus rien. Et tu voulais traverser les steppes de la Sibérie toute seule. Tu ne savais donc pas que le pays était envahi par les Tartares ? Je l'ai appris en arrivant à Moscou. Et malgré cela, tu as continué ton voyage. C'était mon devoir, frère.
Le lendemain, 18 juillet, le Caucase arrive à Perm et une demi-heure plus tard, Nadia et Michel Strogoff s'installent dans un tarentaz tiré par 3 chevaux. Nous allons voyager jour et nuit, Nadia. Je dois arriver à Irkoutsk le plus rapidement possible et c'est pourquoi je ne veux pas m'arrêter un seul instant.
Je ne te retarderai pas, frère. Tu as déjà fait ce voyage ?
Plusieurs fois pour aller à Omsk.
Et qu'allais-tu faire à Omsk ?
Voir ma mère, la vieille Marfa.
Michel Strogoff et Nadia ne sont pas seuls sur la route de Perm à Ekaterinbourg. Dès le premier relais, le courrier du tsar a appris qu'une télègue les précédait. Le 20 juillet, vers 8h du matin, ils aperçoivent au loin les monts Oural, ces montagnes qui séparent la Russie d'Europe de la Sibérie.
« Nous traverserons ces montagnes pendant la nuit, » dit Michel Strogoff à Nadia.
Mais pendant la journée, le ciel devient plus noir et ils entendent quelques coups de tonnerre.
« Il va y avoir un orage, » dit Liemschik à Michel Strogoff.
« Est-ce que la télègue continue à nous précéder ?»«
Oui, elle est devant nous. » »«
Alors, nous continuons. » »«
Tu auras un bon pourboire si nous arrivons demain matin à Ekaterinbourg. »
Vers 11h, des éclairs commencent à illuminer le ciel. Les chevaux, effrayés, s'arrêtent brusquement et refusent d'avancer. Michel Strogoff sent la main de Nadia qui s'appuie sur la sienne.
« J'entends des cris, frère. Écoute. Ce sont sans doute des voyageurs qui demandent du secours. »«
Nous ne pouvons pas les aider, »
dit Liemschik.
« Nous ne pouvons pas mettre en danger la voiture et les chevaux. »«
J'irai à pied, »
répond Michel Strogoff.
Je t'accompagne, frère.
Non, reste, Nadia. Liemschik restera près de toi.
Je ne veux pas le laisser seul,
ajoute-t-il à voix basse.
Je resterai,
répond Nadia.
Michel Strogoff serre la main de sa compagne et disparaît dans la forêt. Sur la route, il aperçoit 2 voyageurs assis l'un à côté de l'autre sur le banc d'une voiture et il reconnaît les 2 correspondants étrangers.
« Bonjour, monsieur, »
s'écrie le Français.
« Permettez-moi de vous présenter mon confrère, monsieur Blount. Nous nous connaissons déjà, messieurs, puisque nous avons voyagé ensemble sur le Caucase. »« Ah, très bien. Monsieur Nicolas Korpanov, commerçant à Irkoutsk, »
répond Michel Strogoff.
« Que vous est-il arrivé ?»« Quelque chose de très drôle, »
répond Alcide Jolivet.
Notre postillon est parti avec l'avant de notre voiture et nous sommes restés seuls sur le banc de la partie arrière du véhicule. Ce n'est pas drôle du tout,
répond l'anglais.
Comment allons-nous continuer notre route?
Messieurs,
dit Michel Strogoff,
ma voiture est près d'ici. Je vais vous prêter un de mes chevaux et il tirera ce qui reste de votre voiture. Je ne vous propose pas de monter dans mon tarentaz car il n'a que 2 places que nous occupons, ma sœur et moi. « Merci, monsieur Korpanov, »
répond Alcide Jolivet.
« Si vous allez loin dans les steppes, nous nous reverrons sûrement. »«
Je vais à Omsk, »
répond Michel Strogoff.
Monsieur Blount et moi, nous allons devant nous, là où il y a des nouvelles que nous pouvons envoyer à nos journaux.
Dans les provinces envahies ?
Demande Michel Strogoff.
Alors, nous ne nous reverrons pas. Je suis trop pacifique pour aller là où on se bat.
Puis, d'un ton indifférent, il demande.
Que savez-vous de l'invasion tartare ?
Les tartares de Foufarkhan ont envahi toute la province de Semipalatinsk. Et depuis quelques jours, ils descendent le long du fleuve Irtych.
On croit que le colonel Ogareff a réussi à passer la frontière déguisé en bohémien et qu'il va bientôt rejoindre le chef tartare.
En bohémien ?
S'écrie Michel Strogoff, qui pense aux deux bohémiens qu'il a vus à Nijni Novgorod, puis sur le Caucase. À ce moment, ils entendent un coup de feu.
Vite ! Allons voir ce qui se passe !
S'écrie Michel Strogoff.
« Cet homme est peut-être un commerçant pacifique, »
dit Alcide Jolivet à son confrère,
« mais il court rapidement là où il y a des coups de feu. »
Quelques instants plus tard, les trois hommes arrivent près du Tarentas dans lequel se trouve Nadia. Ils entendent alors un grognement ainsi qu'un second coup de feu.
« Un ours !»
s'écrie Michel Strogoff.
« Nadia ! Nadia !»
Et, tirant son couteau de sa ceinture, il s'élance contre l'animal. Son bras ne fait qu'un mouvement, de bas en haut, et l'énorme animal, ouvert du ventre au cou, tombe sur le sol.
« Tu n'es pas blessé, ma sœur ?»«
Non, frère. Les chevaux ont eu peur de l'ours, et ils ont pris la fuite. Et Liemchik est parti derrière eux. Alors j'ai pris un revolver, et j'ai tiré sur l'animal. »
Vous êtes peut-être un simple commerçant, monsieur Kopanov, mais je vois que vous savez utiliser un couteau de chasseur.
En Sibérie, messieurs,
répond Michel Strogoff,
il faut savoir faire un peu de tout.
À ce moment, Liemchik revient avec les chevaux et Michel Strogoff lui explique la situation.